Zia. Zia, Zia, Zia. Oye, uri kala koto. Kwane koka, eye. Akwa tuane poloka, oye. Mamlale.
Radio G.
Just wanna tell you.
101.5 FM.
Si un schtroumpf ne se rase pas, est-ce que sa barbe sera bleue? D'ailleurs, est-ce que Gilles de Rais était un schtroumpf? Angevin, Angevine, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle chronique de Clic-Clac-Topette qui explore et découvre l'histoire en Anjou. Je m'appelle Pierre Benoît et aujourd'hui, on va s'arrêter sur une figure historique angevine, sujette à controverse et dont la postérité s'est mélangée avec les pires histoires des contes et des légendes. Le 26 octobre 1440, Gilles de Rais est exécuté dans une prairie de l'île de Grande-Biesse à Nantes. Il est tout d'abord pendu avant d'être partiellement consumé par les flammes. Il a été condamné pour rébellion, pacte avec le diable et crime contre nature. Il aurait violé et tué entre 140 et 800 enfants de 1432 à 1440. Ses crimes et ses horreurs ont tellement frappé les esprits que sa figure s'est confondue au 19e siècle avec la légende de Barbe Bleue qu'a fixée en 1697 Charles Perrault dans ses contes. Mais tout ça pourrait être entièrement faux. En 1992, un improbable procès de réhabilitation du seigneur de Rais est tenu au Sénat par des hauts magistrats français qui étudient les archives et les témoignages du procès de 1440 et aboutissent à une conclusion totalement différente. Le maréchal de France de Charles VII est innocent. Pour l'historien vendéen Gilbert Proutot, qui était à l'origine de ce procès, l'ogre de Tiffauges et de Chantossé a été victime d'une impitoyable machination judiciaire pour le faire tomber, car trop puissant aux yeux du duc de Bretagne Jean V, qui convoitait ses possessions aux portes de son duché. Gilles de Rais, maréchal de France, compagnon d'armes de la Pucelle et seigneur des marches de Bretagne, aurait-il été exécuté à tort ? A-t-il été victime d'une conspiration judiciaire et politique? Ou alors, est-il un effroyable tueur en série comme la France et l'Anjou n'en ont jamais connu? Voilà ce qu'on va découvrir dans cette chronique de Clic-Clac-Topette. Avant ça, je vous invite à rejoindre les pages Facebook et Instagram des chroniques au nom de Clic-Clac-Topette et même de vous abonner au podcast sur Deezer et Spotify. Dans la description de cette chronique, vous trouverez également en lien le circuit historique de la ville de Chantossé-sur-Loire qui part des ruines du château de Gilles de Rais. Encourageons ces initiatives en faisant participer notre curiosité. Merci pour elle et bonne écoute! Jusqu'à ses 25-30 ans, Gilles de Laval est un remarquable chevalier qui combat aux côtés de Charles VII dans l'ultime acte de la guerre de Cent Ans. La condamnation à mort de Jeanne d'Arc en 1431 et la mort de son grand-père, Jean de Cran, en 1432, provoquent une rupture dans son parcours. À partir de là, plus rien ne pourra arrêter la bête. Il avouera lui-même en avoir fait assez pour condamner à la mort 10 000 hommes. Sa date exacte de naissance n'est pas connue. Elle tourne autour de 1404. Il est l'arrière-petit-neveu du grand duc Éclin, ce chevalier breton qui repose avec les rois de France à Saint-Denis. À l'âge de 11 ans, son père meurt et sa mère disparaît. C'est donc son grand-père, le redoutable Jean de Cran, qui va prendre en charge son éducation et faire de lui une véritable arme de guerre. Dès ses 16 ans, il est sur les champs de bataille. À même pas 20 ans, il est auprès du dauphin Charles quand Jeanne d'Arc arrive à Chinon. Elle le choisit pour commander ses armées. En 1429, Gilles de Rais est fait maréchal de France par le roi et se tient aux côtés de la Pucelle sur l'autel de la cathédrale de Reims lors du sacre de Charles VII. Voilà pour la partie heureuse de la vie du seigneur de Rais. Mais à partir de 1432, quelque chose de profond et de grave semble se briser en lui. En 1432, c'est la mort de son grand-père, Jean de Cran. Gilles de Rais devient alors le baron le plus riche du royaume, avec 36 châteaux et 40 terres le long des marches de Bretagne. Sans plus aucune bride, au fait de sa réussite, il commence à se livrer à des actes sombres, comme l'invocation de Satan pour trouver encore plus de richesses, et s'entoure d'une gigantesque chorale d'enfants. La descente s'amorce, et elle est violente. Comme convenu, le diable ne veut pas pactiser, donc pas de rentrée d'argent de ce côté-là, mais beaucoup de dépenses de l'autre côté. Jusqu'à 80 000 couronnes d'or pour un séjour à Orléans, un seul. Il consomme la chandelle par les deux bouts, et se retrouve contraint de céder ses domaines à des prix dérisoires pour combler sa prodigalité. En mai 1440, humilié et voulant revenir sur une vente pour l'attribuer à un plus offrant, il force les portes de l'église de Saint-Étienne-de-Mer-Morte, au sud de Nantes, pour contraindre Jean le Ferron de lui rendre. Celui-ci refuse, il le violente et l'enferme à Tiffauges. L'évêque de Nantes et chancelier de Bretagne, Jean de Malétroit, ouvre un procès contre le seigneur de Rais. Et les premiers témoignages qu'il recueille sont affligeants. Gilles de Laval serait responsable de la disparition en masse d'enfants dans la région. 140, peut-être plus encore. Acculé par les dettes, par l'opinion et par la justice, il craque et finit par avouer ses crimes. Il enfermait ses proies dans une pièce et en présence de deux complices, Henriet et Poitou, il allongeait sa victime avant de sortir et de frotter son membre viril contre l'enfant et de faire jaillir son sperme dessus. Après quoi, il le tuait, évidemment. 552 ans plus tard, un historien vendéen, un peu fantaisiste, provoque la réunion d'une cour arbitrale composée de hauts magistrats français et obtient la révision, au Sénat, en 1992, du procès de Gilles de Rais. Sur les mêmes éléments de dossier issus des archives de 1440, le verdict est sans appel. Gilles de Rais est innocent. Il existe des failles évidentes dans le procès qui corroborent la thèse de la cupidité du duc de Bretagne et de sa volonté de faire tomber le sieur de Rais. Tout le monde s'accorde pour dire que Gilles de Laval aimait éblouir, embellir, jouir. Il disposait d'une incroyable bibliothèque de livres aux reliures dorées. Il faisait jouer des pièces de théâtre à la volée dans ses villes. Il déplaçait avec lui toute sa chapelle, magnifiquement habillée, et emportait un orgue portatif pour le plaisir d'en profiter tout le temps. Il dégote un clerc italien de Toscane qui prétend l'aider à parvenir à maîtriser la transformation des matériaux en or, l'alchimie. C'est lui qui va le pousser à invoquer Satan. En 1437, Gilles de Rais avait vendu son château de Chantossé au duc de Bretagne, Jean V. Or, le contrat prévoyait que le seigneur de Tiffauges pourrait revenir sur la vente s'il parvenait à réunir l'entièreté de la somme dans les 6 années suivantes. Avec ses histoires de recherche alchimique, Jean V, bercé des illusions de son temps, comme les autres, craignait que l'ancien compagnon de la pucelle parvienne à ses fins, et donc à récupérer son château. En juillet 1440, le duc de Bretagne fait venir son vassal de la baronnie de Rais, et c'est étrangement à ce moment-là que Jean de Malétroit ouvre une enquête contre Gilles de Laval. L'évêque de Nantes et chancelier de Bretagne est aussi le cousin de Jean V. Il a été captif du seigneur de Rais en 1426 pendant la guerre de Cent Ans et pourrait avoir trouvé la bonne occasion de prendre sa revanche. Mais ni l'attaque de Saint-Étienne ni la pratique de l'alchimie sont des motifs suffisants pour faire tomber un noble aussi puissant. Il faut un motif à saveur hérétique, comme la sodomie et le viol d'enfants, par exemple. Le 13 septembre 1440, Gilles de Rais est convoqué à Nantes pour se faire lire les chefs d'accusation. Entre-temps, jusqu'au 28 septembre, seuls 2 témoignages supplémentaires ont été ajoutés au dossier, ce qui fait 10 témoins au total. Peu importe, 10 familles suffisent pour l'accuser de la disparition inexpliquée d'au moins 140 enfants. Pour Gilbert Proutot, cela ne tient pas dès les premiers instants du procès de 1440. Et ce n'est pas tout. Un mois plus tard, le 13 octobre, l'évêque de Nantes affirme que les complices du baron ont corroboré les dires de ses prétendues victimes. Sauf que les dépositions de ces complicités en question ne seront faites que 3-4 jours plus tard, les 16 et 17 octobre. Petite incohérence. D'ailleurs, l'ensemble des témoignages est très précis, trop concordant, et laisse penser à une sorte de texte répété sous torture, ou sous menace de torture. Les aveux même de Gilles de Rais sont calqués et similaires aux dépositions de ses complices. Et l'ensemble des crimes ne produit aucun cadavre, alors même qu'il est accusé d'avoir tué encore quelques semaines, presque quelques jours avant le procès. Le 26 octobre 1440, l'ogre de Tiffauges est mis à mort. Et le duc de Bretagne confisque l'ensemble de ses biens pour son profit et celui de Jean de Malétroit. Une issue qui arrange étrangement les accusateurs et une affaire dont le seul objectif semble d'avoir été de mettre à mort ce seigneur de haut rang. Puisque les enquêteurs n'ont pas poursuivi les recherches à propos des disparitions, massives tout de même, et à l'origine du procès. Cependant, Gilles de Rais avait une personnalité trouble et avait le goût du sang sur les champs de bataille. Tuer était une activité qui ne lui était pas inconnue. Il était entouré d'enfants dans sa chorale. Et une fois au moins, il a extrait des viscères. Le jeune seigneur aurait même eu pour habitude d'affamer ses chiens avant de les jeter sur de pauvres bergers dans la campagne autour de Chantossée. Son attrait pour la magie noire et les sciences occultes l'obsède depuis sa tendre enfance. Pour invoquer Satan, le seigneur de Tiffauges lui ramène le cœur, l'œil et la main d'un jeune enfant. L'enfant était mort, ça c'est certain. Mais par quoi ou par qui la mort lui a été donnée? La structure psychologique de l'ogre de l'Ouest a été analysée dès le 19e siècle, comme avec Von Krafft-Ebing, qui le prend en exemple pour détailler les mécanismes du sadisme, ou avec Matai Kazaku, qui assure que le profil de Gilles de Rais remplit toutes les conditions nécessaires pour devenir le parfait psychopathe. Mais sur quoi reposent ces analyses? Ces psychiatres n'ont pas dialogué de vive voix avec le seigneur Angevin, et leur avis se fonde essentiellement sur le conte et la légende de Barbe Bleue pour étayer leur propre théorie, ce qui permet de remettre un peu en cause leur étude. L'historien Salomon Reynac, qui assure que Gilles de Rais n'est pas coupable, met en avant les propos des proches du seigneur qui n'ont cessé de clamer son innocence, et même de la timide demande de révision du procès, 3 ans plus tard, par Charles VII himself. Que la famille de l'accusé le croit innocent ne signifie pas qu'il le soit. Finalement, les seules certitudes dans cette affaire sont les disparitions d'enfants et l'exécution de Gilles de Rais. Même si les éléments qui relient ces deux événements apportent autant à la thèse de la culpabilité du seigneur Angevin qu'à sa possible innocence par manque de certitude absolue. Le mystère reste entier. Pour conclure, voici un extrait du début de la pièce de théâtre « Le porteur d'histoire » d'Alexis Michalik. Chaque historien, même s'il tâche d'être le plus intègre possible, s'inscrit dans une époque traversée par des courants de pensée qui sont directement liés aux moyens d'informations disponibles. Chaque historien est avant tout un homme. L'histoire ne peut donc pas être absolument objective. La figure historique de Gilles de Rais doit beaucoup plus aujourd'hui à ce que le 19e siècle a choisi de faire de lui qu'à ce qu'il a été vraiment. 580 années se sont écoulées depuis les faits, et la question aujourd'hui n'est plus de connaître la culpabilité ou non du compagnon de la pucelle de Don Remy, mais de savoir quelle postérité choisit de lui accorder le 21e siècle. La figure historique de Gilles de Rais tient surtout dans le besoin de la société et de l'individu de se représenter le bien et le mal au travers de représentants symboliques, plus que dans le besoin d'établir la vérité. C'est fini, merci d'avoir écouté, merci vivement. Rendez-vous lundi dans 2 semaines à 13h sur le 101.5 FM et à tout instant sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur radio-g.fr, Deezer ou Spotify. Topette !
Radio G, 101.5 FM.
Walking in the midnight sun.
Sex gods, took by in girls in a turn. You're fantastic.